Tu vois, j'étais porteuse de messages que je n'appliquais pas moi-même parce que je pense que j'ai pas arrêté de répéter pendant tout le podcast qu'il fallait pas avoir peur, etc. Mais moi, c'était exactement ce que je faisais. Je vivais dans la peur et c'est pour ça aussi que je restais un peu chez Accenture parce que j'avais, voilà, c'était un peu la sécurité, que ce soit financière, enfin voilà, d'avoir une situation stable. Ça me permettait, après l'achat d'un appart, au moins d'avoir ça, quoi. La priorité pour moi, c'était de souffler. Et je crois qu'avec ou sans meilleur pâtissier, ça sera arrivé, en fait. J'aurais quitté Accenture parce que ça me correspondait plus. Enfin voilà, j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais au quotidien. Il faut un peu d'inconscience, un petit peu de folie aussi, parce que si t'es trop raisonné raisonnable, je pense que tu te lances pas, quoi. Et je crois que j'ai été trop raisonné raisonnable moi pendant des années, ce qui m'a fait un peu me dire ouais, stop, il faut que tu vives un peu le truc au jour le jour. Et voilà, t'auras des déceptions, bah tant pis, ça c'est comme ça et c'est pas grave.
Je suis Charlotte Desrosiers Natral et je te souhaite la bienvenue dans Pourquoi pas moi en chemin. Ils ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Je t'invite à suivre le changement de vie de personnes exceptionnelles qui sont passées à l'action et sont en pleine sortie de leur zone de confort. Nous suivrons leur avancement, leurs peurs, leurs doutes, leurs réjouissances et le rôle de leur entourage. J'aurai le plaisir de les interviewer tout au long de ce fabuleux chemin grâce à un épisode trimestriel où vous pourrez leur poser toutes vos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co. En attendant, je vous propose un nouvel épisode de Pourquoi pas moi en chemin. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui notre deuxième rendez-vous avec Camille. Merci pour toutes vos questions envoyées sur le site ou sur Instagram. Quelle joie de voir mes invités dans Chemin Cheminé. Avant de laisser la parole à Camille, deux petites informations. Il y a désormais une newsletter où vous pouvez vous inscrire en allant sur pourquoipasmoi.co. où je vous pousse des contenus pour vous permettre d'écouter votre petite voix. Et aussi, je vous préviendrai quelques jours avant de notre deuxième rendez-vous avec Camille. Deuxième petite info, j'ai toujours besoin de vous pour faire connaître le podcast. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Allez, je ne vous fais pas plus patienter. À tout de suite dans l'univers de Camille Perrotte.
Bonjour Camille !
Salut Charlotte !
Je suis hyper heureuse de te retrouver aujourd'hui et impatiente de savoir ce qui va se passer. Je crois que je ne suis pas la seule de ce qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Quand on s'est quitté, tu étais au 3/5e chez Accenture et 2/5e, enfin entre guillemets 2/5e pour la pâtisserie, mais bon, finalement c'était aussi ton week-end avec.
Ouais.
Où est-ce que tu en es aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Donc, j'ai démissionné d'Accenture, voilà, il y a maintenant un mois. Donc, ma fin effective, c'était début septembre. Donc là, c'est tout récent, il y a 2 semaines. Et puis, entre-temps, j'ai aussi passé le CAP. Mais bon, le gros changement, c'était quand même la démission parce que c'est vrai, on en parlait à ce moment-là, j'étais vraiment dans le questionnement. Je savais pas encore comment me positionner, mais je crois que ça m'a aidé le podcast au final à faire aussi à poser les mots sur ma situation et le fait de me dire que c'était maintenant et qu'à un moment, il fallait... En plus, tu vois, j'ai été porteuse de messages que je n'appliquais pas moi-même parce que je pense que j'ai pas arrêté de répéter pendant tout le podcast qu'il fallait pas avoir peur, etc. Mais moi, c'était exactement ce que je faisais. Je vivais dans la peur et c'est pour ça aussi que je restais un peu chez Accenture parce que j'avais... voilà, c'était un peu la sécurité, que ce soit financière, d'avoir une situation stable. Ça me permettait, après l'achat d'un appart, au moins d'avoir ça, quoi. Et en fait, je me suis dit que c'était maintenant qu'il fallait y aller. Donc, j'ai pris une grande bouffée d'air et je me suis lancée. Et je me suis lancée, Mais sans, j'ai eu beaucoup de questions. Mais du coup, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu démissionnes? Parce que
de la part d'Accenture, ces questions-là?
De la part d'Accenture et de ma famille, enfin des gens, et même toute personne à qui j'ai dit que j'étais en train de démissionner m'a posé cette question. Et c'est vrai que c'est normal. Enfin, le rationnel, normalement, c'est que quand tu quittes une entreprise, normalement, enfin, je pense que dans la tête des gens, j'avais un énorme projet derrière. Et en fait, bon, j'ai pas un projet. J'ai plein de projets différents, mais j'ai pas quitté Accenture. J'ai pas quitté. Déjà, je crois que la priorité pour moi, c'était de souffler. Et je crois que avec ou sans meilleur pâtissier, ça sera arrivé en fait. J'aurais quitté Accenture parce que ça me correspondait plus. Enfin voilà, j'avais du mal à trouver du sens dans ce que je faisais au quotidien. Et en fait, je l'ai découvert avec le confinement. Alors, j'ai démissionné en plus presque en sortant du confinement, enfin pas tout de suite après, ouais. mais du coup, ça a étonné beaucoup de gens parce que c'était pas vraiment la logique à ce moment-là.
C'est un vrai sujet où on dit finalement pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont dit bah c'est plus confortable d'être salarié.
Exactement. Ouais. Et surtout. On va pas dire qu'au mois de juin c'était le plein emploi, voilà quoi. Je crois que c'était un peu compliqué le recrutement aussi. Et du coup, point de vue salarié, quand tu quittes une entreprise, du moins pour en retrouver une autre, c'est pas forcément au sortir d'un confinement que tu vas être en meilleure position, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a étonné beaucoup de gens. Ça a étonné beaucoup de gens que je le fasse à ce moment-là, que je le fasse au mois de juillet en fait, que j'annonce que j'allais partir. Mais encore une fois, je l'ai fait parce que pendant le confinement, j'étais un petit peu dans ma bulle et en fait, j'avais trouvé presque un confort et j'avais trouvé un rythme qui était plutôt sympa, à savoir que je travaillais dans ma cuisine. Donc, que ce soit pour Accenture ou pour moi, je travaillais dans ma cuisine. J'avais jamais mes casseroles très loin. Et donc, en fait, je faisais un slide et dès que j'avais terminé, ma journée était ultra rentabilisée. Il n'y avait pas une minute que je perdais parce qu'en fait, les allers-retours étaient tellement faciles entre la pâtisserie. En fait, tout ce côté non fluide que j'avais au quotidien avant le confinement entre Accenture et la pâtisserie et cette incompatibilité, je l'ai un petit peu perdu pendant le confinement, dans le sens où tout était fluide parce que j'avais tout à proximité, tout se faisait à distance. Enfin voilà, c'était génial. Et en fait, au mois de juin, la vie a repris un peu son cours et du coup, j'ai été mise en mission, en banque à Montreuil. Du coup, moi, vivant dans l'Ouest parisien, je me suis retrouvée à faire une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir. Et en fait, je crois que là, j'ai perdu foi totalement. et en fait, j'avais plus du tout cette flexibilité. Je restais toute la journée à Montreuil devant mon ordi. J'avais plus ma cuisine. Les activités en pâtisserie ont repris d'un coup aussi. Donc tout ce qui s'était mis en stand-by un peu pendant le confinement, tout a repris. Je me suis retrouvée totalement sous l'eau et à la fois, j'avais l'impression de perdre mon temps. J'avais cette énorme impression de perdre mon temps dans les 3 jours par semaine que je faisais en banque. Et du coup, j'ai dit non, c'est plus possible. C'est plus possible. Et donc, en fait, ma démission, ça ne s'est pas fait dans une logique de, comme tout le monde le pensait, j'ai un gros projet, donc je démissionne. Ça s'est fait dans une logique de j'arrête de perdre du temps et surtout, je prends du temps pour moi et je fais plus des trucs qui n'ont plus de sens pour moi, même 3 jours par semaine. J'arrête, en fait. J'arrête ça et voilà. Et je pense que c'est nécessaire aussi pour moi, pour ma réflexion de ma future entreprise, si future entreprise il y a. Mais en tout cas, elle est déjà là, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas viable. C'est pas un modèle viable pour moi. J'en vis
pas. Quand tu dis que c'est pas... c'est la grande question. C'est qu'aujourd'hui, donc, t'as une activité, ouais. Mais ça te permet pas de... Ça te permet pas d'en vivre.
Non. Très honnêtement, non, j'en vis pas. J'en vis pas. Et c'est pas dans le sens où... j'ai pas le même confort de vie que chez Accenture, etc. C'est que pour le coup, j'en vis pas du tout. Donc, c'est-à-dire que rembourser mon emprunt, je peux pas rembourser mon emprunt, par exemple, avec ce que je gagne.
Ouais. On parle même pas moi, de partir en vacances.
Exactement. Non. Là, pour le coup, c'est pour ça que je dis que c'est pas un modèle viable pour moi pour l'instant.
Et du coup, tu as démissionné. Est-ce que tu as pu réussir à faire une rupture co pour justement avoir le droit au chômage ?
Oui. J'ai réussi à faire une rupture conventionnelle. Moi, je m'étais mise une pression de dingue sur la rupture conventionnelle parce que, pour le coup, c'était pas conventionnel, on va dire, chez Accenture. C'est vrai qu'on... c'est pas forcément, ce sont des entreprises, c'est un peu comme en audit, le conseil, il y a beaucoup de turnover, etc. Donc, bien souvent, dans ces entreprises-là, la rupture conventionnelle n'est pas favorisée pour que, justement, ce soit pas que ça favorise pas ce genre de comportement où, voilà. Donc, je m'étais mise une pression de dingue et peut-être que certains collègues me l'ont mise aussi en me disant « Est-ce que tu as préparé ton argumentation ?» etc. Moi, j'étais là, mais pas du tout. J'avais pas préparé d'argumentaire spécial parce que, dans le sens où, pour moi, c'était assez... logique en fait, enfin que après l'émission déjà et je crois que d'ailleurs c'est pour ça que c'est passé, ça a été aussi facile la négociation, c'est que pour le coup mon boss m'a dit mais en fait je suis même étonnée que ça arrive que maintenant parce que ça devait arriver et que voilà même si je pense que j'étais pas un mauvais élément, je sais pas si j'étais le meilleur non plus, mais en tout cas j'étais pas une voilà, je plombais pas du tout l'entreprise, je pense que je travaillais quand même toujours assez bien chez Accenture, mais ils sentaient que j'avais la tête ailleurs et c'est sûr, et c'était compliqué à gérer pour moi, pour eux, d'avoir quelqu'un au 3/5e en conseil, c'est pas forcément évident hein. Faut parce que c'est une entreprise qui vend des personnes, qui vend des expertises. Et quand on dit qu'on vend une personne, mais qui sera là que 3 jours par semaine, c'est pas forcément évident. Ouais. Voilà. Donc, du coup, ça s'est quand même très, très bien passé, la négociation. Ouais. Voilà, j'ai pas lutté pour avoir une rupture conventionnelle. Et effectivement, c'était quand même assez recevable l'argument que... Moi, je voulais lancer mon entreprise, mais que j'avais quand même besoin d'une certaine sécurité derrière, quoi. Je pouvais pas me lancer comme ça, sans filet. C'est déjà sans filet pour moi.
Est-ce que tu as pensé si tu avais dit non à la rupture conventionnelle, donc pas au chômage?
Je t'avoue que j'y ai pensé, mais ça a été très bref parce que c'était quand même sujet d'angoisse pour moi. Et puis, j'ai été assez sincère dans ma démarche. Donc, quand j'ai commencé à annoncer ma volonté de départ autour de moi, je me suis dit que très vite, de toute façon, il fallait que je l'annonce dans le haut de la hiérarchie parce que j'avais pas envie que ça leur parvienne par d'autres canaux que moi, en fait. Et du coup, en fait, le process a été hyper rapide, en fait, et les discussions étaient très rapidement bâclé. Donc, je t'avoue que j'y ai pensé sans y penser. Je t'ai dit qu'il fallait toujours avoir un plan B, mais là, pour le coup, ça s'est fait en quelques jours, quoi. Donc, je pense que le plan B, j'y aurais pensé si j'avais senti des réticences. Mais là, j'en ai pas senti spécialement. La discussion RH est arrivée très, très vite le lendemain, je crois, de ma discussion avec mon boss. Et la RH m'a dit directement au téléphone, non, mais en fait, si je t'appelle, c'est pour te dire qu'on est OK, c'est pas pour... on va pas faire de grand procès, etc. C'est bon, quoi. Ça s'est très, très, très bien passé. Et voilà. Donc, j'ai pas eu d'angoisse supplémentaire dans ce process-là.
Ouais. Et pour toi, du coup, c'était quoi les plus grandes angoisses avant de passer le cap Donc, bon, évidemment, ce que tu disais, il y avait de la partie financière qui est évidemment... Ouais. Non négligeable. C'était quoi les autres freins pour toi?
C'est un peu ce que je viens de t'évoquer, le côté tu as un projet. Ça fait un an, je crois, que j'ai une pression énorme par rapport à ça. C'est-à-dire que déjà, je m'en souviens, je termine le tournage de Mère Pâtissier. On était le 1er juin 2019 à l'époque. Et donc, je viens de terminer. Je viens de passer 2 mois de tournage assez intense. Alors, j'ai pas envie de me plaindre, c'était quand même une aventure énorme, mais c'était très intense physiquement, mentalement, etc. On vient de me remettre le trophée. Les 5 minutes qui suivent, il y a tout le monde qui vient te voir, que ce soit les journalistes, les producteurs, ta famille. Moi, ma famille, mais quand même, je sentais dans leur regard cette part de responsabilité. Et on vient te dire, le message, en gros, c'était... t'as de l'or dans les mains, t'as un truc là. Maintenant, faut l'utiliser en fait. Faut l'utiliser. Donc, si t'as un projet, c'est maintenant que ça se crée. Alors, bon, bien sûr, il y a le conditionnement. Il y a si tu as un projet, mais donc parfois on y met les formes. On te dit si tu as un projet, c'est maintenant que ça se joue, il faut y aller. Mais quand même, on te fait sentir que tu es porteuse d'une responsabilité énorme, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées un truc, il faut que. Et c'est vrai. Enfin, c'est pas vrai, mais en tout cas, t'as une chance incroyable, c'est que t'as gagné au meilleur pâtissier. Alors, il n'y a pas que de la chance, mais il y a une part de chance aussi. Il y a une part de chance, hein, il ne faut pas l'oublier. Enfin, en tout cas, pour arriver déjà, ne serait-ce que jusqu'à l'émission, il y a une part de chance quand même qui est incroyable. Et donc, il faut capitaliser là-dessus. Mais du coup, sur Instagram, c'était pareil. La plupart des, ou même sur tous les réseaux d'ailleurs, même dans mes mails, la plupart des mails que j'avais, il y avait beaucoup de gens qui m'envoyaient des pavés et pour me dire quand est-ce que tu ouvres ta boutique. C'est qu'un exemple, mais ouais. Ou c'est quoi ton gros projet derrière? Est-ce qu'on va pouvoir manger tes gâteaux un jour? Et du coup, ça, c'est en fait, on te met inconsciemment, enfin, un truc dans la tête qui fait que tu dois avoir un gros projet. C'est ton gros projet. C'est et en fait, donc ça a été en fait toutes mes journées presque se sont focus là-dessus, c'est savoir c'est quoi mon gros projet quoi. Et du coup, je suis arrivée donc au 3/5e. Effectivement, j'avais besoin de ces 2 jours par semaine, mais c'était pour faire des choses variées. J'avais plein de petites choses différentes. J'avais un livre à assurer. J'avais des partenariats sur les réseaux. Je faisais un petit peu de consulting pour certains restos à Paris. Mais ce n'était pas un énorme projet. Je n'allais pas lancer mon resto. Je n'allais pas lancer ma boutique. C'était des petites activités qui me faisaient tellement plaisir à moi, mais qui, d'un point de vue financier, ne me rapportaient pas énormément. Mais par contre, d'un point de vue bien-être, ça me rapportait vraiment beaucoup. Mais du coup, j'avais cette angoisse de me dire, en fait, je ne peux pas quitter Accenture parce que ce gros projet, je ne l'ai toujours pas. Quoi. Et en fait, j'ai arrêté de me dire, écoute, arrête de te mettre la pression pour les autres et arrête d'essayer d'avoir un gros projet pour les autres, pour leur dire, OK, j'ai mon gros projet, c'est bon, donne, je peux passer à autre chose sur ma to-do. En fait, non, si j'ai quelque chose à devoir, c'est juste à moi-même, c'est pas d'avoir un gros projet pour les autres. Et du coup, j'avais besoin de cette pause chez Accenture pour moi-même. Et du coup, j'ai dit, je prends cette pause qui est nécessaire, que j'ai un gros projet en pâtisserie ou pas, en fait.
Ouais non, c'est génial. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi, en fait.
Et je pense que ça change tout.
Mais c'est vrai qu'il faut arriver à switcher dans le mindset là-dessus, quoi.
Oui, je te dis, on se sent responsable. C'est assez terrible d'avoir tous les. Mais j'ai la question tous les jours. Hein. Et là, quand j'ai passé le CAP, donc la semaine dernière, c'était pareil. C'était. Mais pourquoi tu passes le CAP? Alors effectivement, derrière, il y a une raison quand même. C'est que le CAP, on m'a dans pas mal de partenariats que j'ai faits et même aujourd'hui dans mes activités de consulting, j'ai quand même beaucoup de demandes de est-ce que tu as un diplôme en pâtisserie? Parce que malheureusement, aujourd'hui encore en France, je crois que tu as besoin d'avoir un diplôme.
Rassure.
Encore une fois, pour prouver quelque chose. Alors que, normalement, j'ai envie de te dire, si j'assure le travail et en plus, il y a eu le meilleur pâtissier. Je crois qu'aujourd'hui, mon Instagram, ça fait une bonne carte sur mes capacités de savoir créer un gâteau ou de le faire, et même en des temps limités. Mais c'est pas. Parfois, c'est pas suffisant. Ça reste une société où tu as besoin d'un diplôme qui te fait une carte en plus. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai passé le CAP. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais du coup, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet derrière le CAP? Comme si... Et moi, le CAP, pour l'instant, c'est juste une sécurité. C'est pas nécessaire. Mais en tout cas, je sais que ça peut arriver et que qu'on me le demande et que ce soit... Que ce soit un diplôme obligatoire dans une future vie, dans une de mes futures vies.
C'est justement une question qui m'a été posée sur Instagram quand j'ai dit que j'allais te réinterviewer. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions. Il y a une personne qui me demandait si on pouvait intégrer des pâtisseries sans diplôme avec ton parcours.
Oui. Oui, enfin d'intégrer, tu veux dire, une boutique, enfin une équipe.
Ouais, vu son message, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est possible. Enfin, c'est même sûr. C'est possible. Moi, je l'ai fait sans diplôme. Voilà, j'ai déjà fait des stages en pâtisserie. Je pense que même sans la carte du meilleur pâtissier, j'ai des exemples en tête de personnes qui ont fait des stages, qui justement se posaient la question d'une éventuelle reconversion et avant même de passer le CAP, ont tenté des stages en pâtisserie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de chefs qui ont une ouverture d'esprit et qui permettent ça, ouais. Et même dans des établissements assez prestigieux. Donc, franchement, il n'y a pas de limite et heureusement, le diplôme le CAP n'est pas voilà, n'est pas quelque chose qui va déterminer ta vie. Et si tu as vraiment envie de te lancer en pâtisserie, il y a toujours cette possibilité de commencer par un stage sans même avoir le diplôme. Et d'ailleurs, ouais. Je pense que c'est bien nécessaire. De le faire.
Ouais,
c'est très bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le diplôme du CAP va changer. Je crois qu'il y a très peu de gens qui le sont au courant qui sont au courant de cette réforme parce que encore aujourd'hui du coup comme j'ai passé le CAP j'en ai un peu parlé sur les réseaux et du coup j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit j'ai trop envie de le passer l'année prochaine bon c'est un gros challenge mais je veux le passer sauf qu'en fait il y a très peu de gens qui sont au courant que maintenant en candidat libre l'examen va totalement changer il y a des mois de stage obligatoires. Donc en fait, il faudra faire 3 mois et demi, dans mes souvenirs, 3 mois et demi de stage obligatoire. Ouais. Autant dire que 90% des candidats libres aujourd'hui qui le passent ont une activité professionnelle à côté. Ça va quand même restreindre beaucoup, je pense, candidats.
Ouais, si tu es en candidat libre, c'est justement parce que tu bosses à côté, quoi.
Exactement. Alors moi, c'est ce qui a déterminé un peu. C'est ce qui m'a dit qu'il fallait que voilà je me suis dit il faut que je me lance cette année parce qu'en fait l'année prochaine j'aurai pas forcément le temps de faire 3 mois et demi de pâtisserie de stage dans une boulangerie pâtisserie du coup je me suis dit c'est maintenant c'est cette année je saurais pas te dire si je suis pour ou contre ces mois de stage maintenant qui sont obligatoires en tout cas ça revient à ce qu'on se disait. C'est quand même un plus pour moi dans ma tête. Je me dis, ces stages, ça va permettre à plein de personnes de réaliser que soit ils sont faits pour ça ou soit ils ne le sont pas. Ouais. Et du coup, à partir de ce moment-là, soit tu vas jusqu'au bout de la démarche. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Hein, il faut aller jusqu'à l'examen, etc. Mais je pense que quand tu as passé 3 mois et demi de stage en boulangerie-pâtisserie, il y a beaucoup de personnes qui auront des illusions aussi. Voilà. Donc, ouais, je le sais parce que même moi, je l'ai eu. C'est pour ça que je me suis dit, jamais je vais ouvrir une boutique. Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas faite pour la production de centaines de gâteaux par jour. Je ne suis pas faite pour fabriquer que des crèmes dans une journée et puis le lendemain, de m'attaquer juste à la confection d'un biscuit, etc. Ce n'est pas mon truc. J'aime bien créer un gâteau de A à Z. Je ne suis pas dans une logique de laboratoire. Et donc, en ça, c'est quand même bien le CAP parce qu'à la base, c'est censé former des gens qui les professionnaliser, en fait. Et je pense qu'il y avait beaucoup de candidats libres qui l'ont passé dans les années, ces dernières années, qui n'en ont pas fait forcément grand-chose ou alors qui sont allés, du coup, jusqu'au bout de la démarche et qui, juste après le CAP, se sont lancés dans un apprentissage. Qui ont intégré des brigades, des boutiques, etc. Et qui se sont dit waouh, en fait, c'est pas fait pour moi, quoi. Et du coup, ça, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, je pense qu'ils veulent restreindre aussi l'accès au CAP aux personnes qui le veulent vraiment et qui ont ce but vraiment se professionnaliser dans la pâtisserie. Quoi.
Ouais. D'ailleurs, tu disais en effet que tu adores créer des recettes originales et clairement, t'es hyper douée, t'es hyper douée pour ça. Et il y a une personne du coup aussi qui me posait cette question sur Instagram sur où est-ce que tu vas chercher cette créativité parce qu'en effet, reproduire un gâteau, c'est une chose, en inventer un autre, c'en est une autre.
Ouais, ouais. Alors déjà, j'ai envie de te dire, on ne crée pas à partir de rien. C'est-à-dire que j'ai quand même commencé par refaire des recettes de chef ou des recettes existantes qui fonctionnaient. La personne qui te dira « oui, c'est ma création, etc. » On ne crée pas à partir de rien, donc tu as forcément des bases et tu as forcément construit à partir de recettes que tu connaissais, que tu as peut-être un peu modifié, mais tu ne pars jamais de rien. Et donc, mes inspirations, c'est des visuels que je peux voir passer de gâteaux. Ça peut être des mélanges de visuels. Ça peut être, moi, je disais beaucoup, je me suis beaucoup inspirée pendant mes vacances. Par exemple, quand j'allais en Italie, moi, j'adore la cuisine italienne, que ce soit le sucré ou le salé, et en fait de gâteaux basiques que j'ai goûté dans mes voyages et que j'ai voulu retransformer en des choses un peu plus complexes, point de vue visuel. On parle d'un simple tiramisu ou par exemple, moi, notre dessert préféré avec mon copain, ça s'appelle la crostata au ricotta, à ricotta et au chocolat. C'est un dessert qu'on avait goûté à Rome. Et en fait, ce gâteau-là, je suis en train de le redévelopper, etc., parce que j'ai envie de le pousser un peu. Mais tu vois, c'est une inspiration qui part d'un classique basique. Mais donc, c'est soit quelque chose que j'ai déjà goûté, que j'ai déjà vu, mais ça peut être aussi, je sais pas, un paysage, enfin n'importe quoi, du design. Là, je suis sur des projets alors que j'aimerais bien d'ailleurs mettre à aboutir, mais parce que ça fait un moment que je suis sur la création, que je pense à des moules, donc des créations de moules en pâtisserie, etc. Et ça, la création d'un moule, c'est hyper compliqué parce que j'ai pas envie de faire un moule qui faciliterait, par exemple, on voit beaucoup aujourd'hui de moules qui répliquent des pochages. Donc, c'est-à-dire que c'est un moule qui va te faciliter les choses parce que plutôt que de pocher, tu auras juste à mettre ta crème à l'intérieur, ça va prendre, tu défais et on aura l'impression que tu auras poché ton gâteau. Alors, c'est qu'une impression parce que ça se voit, c'est tellement parfait que voilà, on ne peut pas, au final, on voit très bien que ça n'a pas été fait manuellement, même si c'est quand même du manuel, tu as fait ta mousse, etc. Mais ça n'a pas été fait manuellement et du coup, je n'ai pas envie de tomber dans ce travers de faire un moule déjà qu'on verra partout, qui imitera un pochage à la Douille Saint-Honoré ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de tomber dans ce travers-là, mais j'ai pas envie de faire un moule très simple non plus. Donc du coup, je suis en train d'essayer de m'inspirer du design. Je regardais un peu les lampes design, enfin je regarde plein de trucs, les meubles, parce que ça m'aide beaucoup au final pour créer des formes, mais aussi pour créer des textures. Parfois, dans le design, tu as beaucoup de textures dans un meuble, dans une lampe, dans plein de choses. Hein. Mais ça m'aide beaucoup. Mes inspirations, en fait, elles sont conscientes et inconscientes, j'ai envie de te dire. Donc, la partie inconsciente, je ne peux pas trop te la décrire. Ouais. Je pense que c'est du visu... enfin, c'est ouais. Des choses que...
Tu t'inspires de tout, en fait.
Exactement. Ouais, mais par contre, je n'ai pas envie de te dire que... parce que ça, c'est pareil... je trouve qu'il y a un travers aussi là-dessus, enfin surtout en pâtisserie, je le vois beaucoup parce que il y a plein de gens aujourd'hui sur que ce soit sur oui sur je pense que c'est majoritairement sur les réseaux mais qui te disent oui t'as copié sur tel ou tel chef mais en fait il y a tellement d'inspiration de sources d'inspiration multiples aujourd'hui et visuelles sur les réseaux que parfois c'est pas de la copie inconsciente, j'ai envie de te dire, mais c'est même plus de la copie parce qu'en fait, il y a tellement de choses et puis ça va tellement vite. Enfin, je veux dire, tous les jours, il y a un visuel différent qui est créé, il y a une technique de pochage qui est créée, qu'en fait, parfois, t'en as deux qui ont la même idée, qui font des rapprochements de choses. Et en fait, tu ne crées pas de nulle part. La création, elle vient forcément il y a une base, quoi. Et donc, ce truc de, parce que c'est pareil, moi, la critique, je l'ai beaucoup eue après Le Meilleur Pâtissier. Bon, ça m'a fait rire doucement. Je prends du recul par rapport à ça aussi. Mais comme quoi, j'avais copié sur tous les grands chefs, etc. Mais en fait, déjà, d'une, on est amateur. Donc, il faut bien qu'on commence quelque part. En fait, j'ai envie de te dire, un amateur comme ça, il se transforme pas pâtissier du jour au lendemain. Et donc, c'est des conneries de dire « Ouais, ce gâteau-là, je l'ai créé de A à Z. » Mais en fait, ta ganache montée, t'as appris la technique, tu l'as forcément pris sur un grand chef. Ton tiramisu, t'as appris à le faire quelque part, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, c'est des critiques, voilà, ouais, qui sont un peu faciles, quoi.
Ouais, c'est un peu de la jalousie, c'est un peu de la jalousie mal placée.
Je sais pas. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui tournent là-dessus. Je pense aujourd'hui sur les réseaux, il y a beaucoup de jalousie, etc. Mais c'est vrai que s'inspirer, c'est pas toujours copier, en fait. Faut arrêter. Et puis s'inspirer, ça part toujours d'une copie, j'ai envie de te dire. Ça part toujours d'une réplique. Inconsciemment, s'inspirer, c'est créer à partir de quelque chose. Donc tu pars bien d'une copie, en fait. Voilà. Tout simplement.
Et comment ça s'est passé, du coup, le CAP?
Alors, le CAP, un peu dans la douleur, non. C'était beaucoup plus compliqué que prévu, parce que tu peux jamais... Enfin, moi, le CAP, pour le coup, il y a aussi le fait que je l'ai préparé en très peu de temps. Parce que pendant le confinement, j'avais pas la tête à ça. Je savais que l'examen allait être reporté. J'ai un peu mis le CAP au dernier plan, comme quelque chose qui allait arriver très vite. Mais moi, j'aime bien travailler un peu dans l'urgence, ce qui est c'est vrai. Hein. J'ai du mal à m'y mettre tant que je vois pas l'échéance arriver. Et là, et en fait, on a eu les convocations très très tard cette année. Moi j'ai eu la convocation peut-être 2 semaines avant.
Ah ouais.
Et j'ai eu plein de couacs. J'ai eu plein de couacs administratifs.
Parce que quand t'es arrivée, j'ai vu ça. Quand t'es arrivée, t'étais pas sur la liste.
Exactement. Ouais. Alors ça, c'est en fait, à la base, j'ai pas été convoquée aux écrits. Il s'est passé vraiment un couac. Si je t'en parlais là, je pense qu'on ferait comme l'interview de la dernière fois. Ça durait 2 heures, mais du coup. Donc je t'en parle pas là, ouais. Mais il se trouve que donc j'étais vraiment inscrite pour te la faire brève, j'étais vraiment inscrite au CAP et en fait ma convocation est arrivée et j'étais inscrite uniquement à la pratique. S'en est suivi, je pense, je sais pas, peut-être 50 appels téléphoniques où j'ai essayé de d'appeler l'académie qui, je pense, était sous l'eau à ce moment-là aussi parce que comme je te disais, ils ont envoyé les convocations très tard. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de, ben voilà, la gestion au final des problèmes qui pouvaient se présenter de dernière minute a été faite vraiment dans l'urgence. Normalement, les convocations sont envoyées minimum 1 mois à l'avance, du moins dans les conditions normales. Donc là, normalement, le CAP devait avoir lieu au mois de juin, il a eu lieu au mois de septembre. Et c'est vrai que mais je te dis 2 semaines, mais en fait c'était 1 semaine avant que j'ai reçu la convoc parce que donc fin août. Donc dans ma tête, moi j'avais calculé que j'allais avoir une convocation 1 mois avant et fin août, donc on était le 28 août, j'ai commencé à m'inquiéter parce qu'en fait je n'avais toujours pas ma convocation et je me suis dit on va sûrement pas le passer le 28 septembre le CAP quoi. Et heureusement, donc les réseaux sociaux font que j'ai beaucoup de communication avec les candidats libres aussi. Et certaines personnes m'ont dit, écoute, il faut que tu ailles voir sur le site internet du CAP, il faut que tu réclames ta convocation. Donc j'ai réclamé ma convocation, je l'ai eue et il se trouve que les écrits commençaient le 8 septembre. Donc en fait, entre le 29 août et le 30 septembre, il y a eu le 7-8 septembre, il y a eu vraiment, c'était très short. Et en plus, quand j'ai reçu ma convocation, effectivement, j'étais convoquée qu'à la pratique. Donc là, s'ensuit un stress. J'étais pas convoquée aux écrits. Donc au final, c'était un souci de l'académie qui ne m'avait pas convoquée à tort aux écrits. Ça a été très compliqué à gérer pour moi parce que j'ai eu du mal à les avoir. Bref, un stress supplémentaire. Et du coup, je sais pas pourquoi, consciemment, je sentais que après, donc j'ai reçu ma convocation finalement aux écrits le vendredi soir pour le mardi matin de la semaine suivante. Du coup, c'était un peu short, mais je me suis dit finalement, je vais pouvoir les passer ces écrits. Pour moi, ça a été un combat presque, ne serait-ce que d'arriver à avoir ma convocation à examen. Et bon, ça s'est pas fait dans les bonnes conditions parce que je suis arrivée, et effectivement, ils m'avaient convoquée, donc j'avais réussi à avoir ma convocation, mais en fait, du coup, avec l'urgence, ils avaient pas prévu de place assise pour moi. Voilà. Bon,
En plus, toi, tu voulais quand même essayer de passer un peu incognito pour.
C'est ça. Alors, j'ai pas envie de créer le truc en me disant, je suis la rosta qui est arrivée dans la place et tout. mais en fait, j'ai
forcément reconnu dans cet univers-là particulier, quoi.
Ouais, c'est ça. Et j'avais pas, en fait, ce pourquoi j'avais pas envie qu'on. J'adore le contact avec les gens dans la rue. C'est pas un problème qu'on me reconnaisse, etc. Mais je me suis dit que ce jour-là, ça pouvait créer une source d'angoisse supplémentaire parce que parfois, il y a des situations que tu contrôles plus, dans le sens où quand il y a une personne qui te reconnaît parmi la foule. Je l'ai vécu dans des salons culinaires où là, en plus, t'es potentiellement avec des gens qui adorent ça, donc qui te reconnaissent directement. Et où là, il suffit d'une personne, hein, qui te demande une photo, tout le monde tilte d'un coup et tout le monde arrive vers toi et ça peut créer, enfin, vraiment, ça crée des moments un peu angoissants. Alors, c'est chouette, hein, mais juste avant un examen, c'est pas du tout propice à ça.
T'as besoin d'être focus. Ouais.
Sur un événement, je dis pas, j'adore, c'est très fatigant, mais j'aime beaucoup échanger avec les gens et tout. Mais là, avant un examen, j'avais besoin d'être focus, surtout que justement, comme je te dis, ça s'est déjà pas passé dans les bonnes conditions avant. J'étais très crevée en arrivant à cet examen parce que j'avais lutté pendant une semaine. Donc, ma démission chez Accenture, c'est passé exactement la même semaine que le souci avec l'examen.
La démission, c'est en gros, c'est ton
Donc, c'est tout le process de quitter l'entreprise qui s'est fait un peu dans le rush, hein, parce que c'était le retour des RH de vacances. Donc, ça s'est fait tout d'un coup chez Accenture. Bah, pareil, c'était le retour de vacances pour tout le monde et du coup, ça n'a pas été forcément bien géré. On m'a appelé le lendemain pour que j'aille rendre mon PC. J'ai même pas eu le temps d'envoyer un mail de départ. Du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui vont apprendre via ce podcast que j'ai démissionné d'Accenture, qui ne l'avaient pas forcément en tête parce que j'ai même pas pu envoyer de mail de départ bien réfléchi parce que j'ai dû rendre en plus dans des conditions Covid de mon matériel, etc. À côté de ça, j'avais le CAP que je gérais où j'avais du mal à avoir mes convocs, etc. Je suis arrivée un peu sur les rotules la semaine d'après aux examens. Parce que j'avais dû gérer des choses qui étaient un peu source de stress et de fatigue, inutilement d'ailleurs, parce que je considère que l'administratif, ça devrait pas être autant source de fatigue, mais du coup, c'est pour ça que je voulais pas forcément être reconnue. Après, de toute façon, est arrivé ce qui est arrivé. J'ai dû traverser la salle d'examen de toute façon parce qu'on trouvait pas de place alors que tout le monde était assis, donc il y a beaucoup de gens qui ont levé la tête, beaucoup de gens qui m'ont reconnue. Donc c'était mignon, mais j'avais beaucoup de personnes qui m'attendaient à la fin de l'examen pour me dire que ils m'avaient vu et que ils espéraient que ça se soit bien passé, etc. Et donc au final, ça s'est bien passé, c'était très gentil, assez bienveillant, il n'y a pas eu d'émeute et c'était génial et tant mieux. Et de toute façon, le lendemain, comme j'avais posté ma journée, parce que je crois que ça m'a fait du bien aussi de le partager sur les réseaux, j'ai posté ma journée parce que j'ai trouvé, au final, j'en rigolais de tout ce qui m'est arrivé, d'avoir dû traverser la salle avec la compagnie au milieu du hangar à Porte de Versailles. Je me suis dit, il n'y a qu'à moi que ça peut arriver, ce genre de truc. Je suis avec ma casquette et au final, je suis obligée de marcher devant tout le monde. j'en ai ri et je l'ai partagé sur les réseaux. Et du coup, tout le monde le lendemain était au taquet pour me reconnaître parce que pour trouver où j'étais. Et tout le monde, de toute façon, avait
c'est
vu
pas où,
où
Charlie,
j'étais.
C'est où est Camille, quoi.
mais ça s'est super bien passé le lendemain aussi. Donc.
Te rajoute une charge mentale supérieure par rapport à n'importe quel candidat du CAP, le fait de d'avoir ta notoriété, d'avoir gagné le meilleur pâtissier.
Mmh. Ah ouais, complètement. De dire non, ce serait mentir. Alors pas aux écrits, parce que les écrits, on les passe, on est dans sa bulle et on est avec sa copie. Par contre, à la pratique, en l'occurrence, on était 7 vendredi dernier à la pratique du CAP. Donc, c'est une épreuve qui se déroule sur 7 heures. C'est très, très long. Il faut sortir 4 productions différentes. Mon sujet, c'était j'avais 16 éclairs, 16 pains au chocolat, une charlotte, une tarte. T'as 7 heures. Et là, on est tous dans la même cuisine. Et pour le coup, je sais pas si, on m'a reconnu, les candidats, en tout cas, les autres candidats m'ont reconnu parce que, il y en a plein. Alors, ils ont eu la politesse de faire semblant de pas me reconnaître à la pause parce qu'on a tous mangé ensemble et c'était, mais du coup, toi, c'est quoi, tu fais de la pâtisserie? Alors, il y a une question qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'il y a une personne, je pense, qui de manière un peu pas maladroite, mais je pense qu'elle savait pas quoi me dire parce que du coup tout le monde savait pertinemment qui j'étais, mais du coup et tout le monde se posait des questions et je pense que j'étais la grande oubliée des questions et on s'est dit mince, il faut qu'on lui pose une question sinon elle va sentir qu'on l'a reconnue. Donc on m'a dit mais du coup toi tu fais de la pâtisserie et ça m'a fait rire parce que j'ai dit oui, a priori si je suis là je fais de la pâtisserie, mais c'était histoire de dire on t'a reconnu, mais on fait semblant de pas te connaître. Et du coup, c'était très gentil. Après, la plupart des gens sont venus me parler sur les réseaux en me disant je savais que c'était toi, mais je voulais pas te mettre dans une position inconfort.
Ouais, c'est sympa. Ouais.
Et donc, on se sent quand même, on se sent encore une fois responsable d'un truc. Je pense que je me mettais la pression toute seule. Et maintenant, d'ailleurs, j'ai pris ce recul pour me dire arrête de te sentir responsable de ta position de meilleur pâtissière ou je sais pas, de gagnant du meilleur pâtissier. Parce que c'est vrai qu'on m'a répété pendant des jours et des jours non, mais c'est bon, le CAP, tu vas l'avoir les doigts dans le nez. Et en fait, c'est dur. Non, je vais pas l'avoir les doigts dans le nez parce que c'est des compétences autres que de créer un gâteau meilleur pâtissier. C'est différent. C'est pas les mêmes compétences. Voilà, ça demande une hygiène très stricte, des petites choses qui font que tu peux perdre des points rapidement. Enfin, tu vois, c'est vraiment, tu peux pas poser tes œufs à même le plan de travail, par exemple, pour des questions d'hygiène, parce que les œufs, c'est porteur de salmonelle, voilà. Tout ça. Même quelqu'un qui sait très bien pâtisser, qui est très efficace, peut perdre des points par rapport à ça, tu vois, et c'est pas forcément quelque chose qui est, tout le monde ne sait pas qu'il faut poser ses œufs à même, qu'il faut pas poser ses œufs à même son plan de travail, ou du moins qu'il faut tout essuyer après, tu vois, c'est des choses. Et en fait, du coup, j'avais une pression énorme. Alors, à la fois de se dire, il faut pas sortir des trucs trop dégueux parce que par rapport aux autres candidats, derrière, ils vont se dire, Camille, elle a gagné le meilleur pâtissier, mais alors qu'est-ce qu'elle a sorti des bouses? Et aussi par rapport au jury. Voilà, ça, c'était ma grande peur parce que, le jury, quand il te reconnaît, je pense que tu peux avoir des gens qui sont très bienveillants et qui ont pris ce recul de se dire ok, elle a gagné le meilleur pâtissier, c'est pas pour ça qu'on va lui mettre une pression extrême. Mais t'as l'autre travers qui peut être que en fait, on attend des choses de toi. Encore une fois, on attend des choses de toi supérieures aux autres. Et t'es pas censé. Moi, je suis pas une experte du CAP. Comme encore une fois, il y a des compétences qui sont communes pour avoir gagné le meilleur pâtissier, mais il y a d'autres choses que tu dois savoir développer pour passer l'examen, qui ne sont pas innées. Hein. Donc ça se travaille énormément. Et je crois aussi que c'est un examen qui est assez banalisé. Le CAP, du moins le CAP pâtissier, je parle que de ce que je connais, je parle pas des autres CAP, tout le monde te dit waouh, c'est un CAP, c'est bon. Non, c'est très dur, c'est très compliqué.
Parce que tu disais que c'était limite plus dur que les examens aux grandes écoles que tu avais passé il y a quelques années, quoi.
Ouais, physiquement et même en termes de préparation, ça demande des heures aussi. Qui sont franchement comparables à ce que moi je passais le nez dans les bouquins, quoi. Donc franchement, et le jour J, 7 heures debout à faire des allers-retours et à pâtisser. Alors j'y étais un petit peu préparée, et heureusement, parce que je t'ai dit, je l'ai passé. Enfin, je me suis préparée trop rapidement pour ça et pour le CAP. Mais j'avais quand même une petite base qui est de savoir pâtisser quand même, de savoir gérer son temps. Je pense que ça, le meilleur pâtissier, ça m'a vraiment conditionnée quand même pour le coup. Savoir gérer mon temps, je sais en combien de temps je peux faire une pâte à tarte, je sais combien de temps ça va prendre, je sais gérer, des prises au froid, etc. Donc ça m'a quand même bien aidée. Mais je me dis, pour quelqu'un qui se lance dans un CAP pâtissier parce qu'il adore la pâtisserie, mais qui sait pas forcément faire ces choses-là, franchement, il faut 2 ans, quoi. Il faut 2 ans. Et en plus, si tu as un travail, si tu dois assurer tes journées de travail à côté, si tu as une vie de famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent le CAP tardivement, qui ont une vie de famille, qui ont des enfants à gérer, franchement, force et honneur, quoi. C'est ce que je disais. C'est compliqué à gérer. Hein. C'est très, très compliqué.
Donc là, le CAP, tu as la réponse quand ?
Alors, c'est un peu la grande inconnue. Même les examinateurs ne savaient pas. Hein.
D'accord.
Covid oblige, il y a eu plein de changements, je pense, pour aux dernières minutes. Déjà, il y a eu un décalage énorme au niveau de l'examen. Et en fait, ça a été organisé sur beaucoup. L'épreuve pratique a été étalée sur de nombreux mois. contrairement aux conditions habituelles où tout le monde passe à peu près en juin et basta, c'est terminé. Du coup, tout le monde a la réponse en même temps, fin juin, je crois, enfin, je sais pas, mais en tout cas, là, il se trouve que la pratique a commencé depuis début septembre et il y a des gens qui pratiquent, qui ont encore leur examen donc de l'épreuve pratique au mois de novembre. Je crois savoir, en tout cas pour avoir fait des petits sondages. Donc en fait, déjà, c'est pas avant décembre. Donc c'est un peu long.
Ouais, c'est long, c'est clair.
Là, ça va être long. Mais du coup, j'ai décidé de passer à autre chose et de pas y penser parce que c'est vrai que là, ouais, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, mais je suis retournée traumatisée de cette journée, quoi. Enfin, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Et du coup c'est bien parce que j'en ai parlé avec les autres candidats qui étaient avec moi le jour J, même eux qui avaient fait des CAP blancs. Alors ça, je pense que ça m'a beaucoup manqué aussi. Si j'ai un conseil en tout cas à donner aux gens qui se lancent, bah, du coup ça n'arrivera plus parce que maintenant comme il y a les stages et tout, je pense que ça joue un peu le rôle de CAP blanc aussi, mais je pense qu'il y avait plein de candidats qui le passaient les années d'avance sans avoir fait des examens, enfin des CAP blancs, donc ce qu'on appelle un examen en conditions réelles, mais qui ne compte pas. Et pour le coup, ça m'aurait vraiment aidé, quoi. Parce que j'ai jamais passé 7 heures dans une cuisine inconnue. Alors au meilleur pâtissier, je l'avais fait, mais pour quelques heures. Et puis ça s'est étalé sur 2 mois. Donc après, tu prends ton, voilà, t'es confortable. Je sais que dans les premières émissions, j'étais pas du tout confortable. Et là, c'est ce qui fait un peu passer le jour J, c'est que j'étais pas confortable. J'étais pas dans un endroit que je connaissais. Et il faut assurer, il faut faire des gâteaux un petit peu old school qui me correspondent pas du tout. Ouais. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas une pâtisserie qui me correspond. Donc quand on me répétait, oui, mais tu l'auras les doigts dans le nez, le CAP, bon, bah en fait, des charlottes, j'en fais pas tous les jours. Hein.
Je suis déçue.
Non, c'est pas pareil, les crèmes au beurre, c'est pas des trucs que je fais tous les jours. Et c'est une crème qui revient beaucoup au CAP, la crème pâtissière un peu à l'ancienne, c'est pareil.
Ouais, ça n'a pas dû être trop mis à jour par rapport au...
Non, mais du coup, c'est bien parce que je pense que ce sera mis à jour l'année prochaine. Et voilà, je pense que les évolutions qu'il y a eu en pâtisserie aujourd'hui, elles ne sont pas là pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas que du gustatif, c'est aussi du pratique. Quand on met un chou sur un craquelin, alors ça rajoute un petit goût sur un chou, mais ça rajoute aussi...
Si je puis me permettre.
Tu as dit quoi?
Un chou sur un craquelin.
Je m'inverse. Ouais. Ça y est, je commence déjà à fatiguer au bout de temps de. Non, ouais, quand on met un craquelin sur un chou, c'est bien, tu t'y connais en fait.
J'ai déjà fait un craquelin sur un chou.
Ouais, voilà. Et bah, exactement, bah, tu vois, c'est, ça te permettra d'avoir un chou qui sera aussi beaucoup plus rond, beaucoup plus parfait que ce qu'on peut trouver dans les choux éclatés. Parce que pocher un chou tout simple comme ça, ça va, bah, c'est pas évident qu'il soit tout rond à la fin si t'as. Et donc en fait, comme je te disais, c'est un côté pratique aussi. Ça facilite la vie à beaucoup de pâtissiers. Ils vont plus rapidement pour avoir des formes plus harmonieuses dans leur gâteau. Donc il n'y a pas que le côté gustatif. Et malheureusement, ces mises à jour là n'ont pas été faites parfois dans l'examen, quoi. Donc il y a plein de crèmes qui sont ultra faciles à faire aujourd'hui, qui sont très très bonnes aussi. Les ganaches montées, ça n'existait pas à l'époque de la création de l'examen tel qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, c'est des choses dont avec lesquelles moi je suis très habituée à travailler et qui n'étaient pas là le jour J, quoi. Donc voilà. Je l'ai passé un peu dans la douleur, comme pas mal de personnes. Il a fait très chaud aussi. Il faisait 31 vendredi, donc faire de la viennoiserie par 31 degrés, c'est pas évident, quoi.
Ouais, ça tient chaud, c'est le cas de dire.
Mais c'était une expérience de fou et je suis contente d'avoir été jusqu'au bout des choses. J'aurais très bien pu abandonner soit avant les écrits, soit à mi-parcours en me disant, bon, en fait, là, j'ai déjà trop de trucs à gérer et j'arrête. Et le CAP, tant pis, je prends le fait que j'ai gagné au meilleur pâtissier pour un acquis et j'ai pas besoin du CAP. Mais en fait, non, je suis allée jusqu'au bout du truc et déjà, rien que ça, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout, quoi. D'avoir été jusqu'à preuve. Ouais.
Et comment ça s'est passé suite à la diffusion de l'épisode du premier rendez-vous ensemble? Est-ce que tu as eu des feedbacks de ta famille, de ton entourage qui ont appris des choses qu'ils ne savaient
pas? Alors, de ma famille... Alors ils ont écouté. Ma maman toujours aussi sensible me dit j'y suis allée, je sais même pas pourquoi. Mais elle pleure pour chacune de enfin pour chaque projet que j'entreprends ou pour chaque chose que je fais qui est un peu nouveau pour elle. Elle est euh, elle est toujours hyper enjouée, donc ça changera pas, mais ça me fait super plaisir. Mais je crois que comme je suis super transparente avec eux, ils ont pas appris grand chose. Par contre, par exemple, ma communauté Instagram a beaucoup appris sur moi, parce que c'est bien, on n'a pas parlé que de pâtisserie, on a parlé aussi beaucoup de voilà, de projets professionnels, ou de on a beaucoup parlé d'Accenture. C'était quelque chose que voilà, j'évoque pas du tout sur les réseaux. On a un peu parlé de ma vie privée aussi, que je me protège un peu par rapport à ça aussi. Et donc et j'ai eu beaucoup de feedback de gens qui étaient qui se sont qui m'ont dit, en fait tu m'as aidé. Enfin non, je les ai pas aidés, c'est pas le terme, je les ai rassurés. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même parcours que moi à peu près aujourd'hui, voilà, qui ont fait une école d'ingé, de commerce, etc., et qui sont paumés. C'est un peu triste, je trouve. Enfin, pas triste, mais je saurais pas décrire le terme, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de ces écoles et qui disent que tout ce qu'on t'a promis quand tu rentres dans ces écoles, voilà, la promesse n'est pas forcément au rendez-vous. Et du coup, j'ai eu des mails, des messages de gens qui sont en médecine, qui sont aux mines de Paris. D'ailleurs, je ne trouve pas forcément à chaque fois le temps de leur répondre, parce que je pense que ces gens-là, ils méritent une réponse construite. Enfin, voilà, ils méritent même un échange téléphonique, j'ai envie de te dire, même une discussion autour d'un café, parce que je ne peux pas leur... Je peux pas leur trouver une solution à un problème comme ça en un message, et même plus, j'ai envie de te dire. Enfin, je pense que c'est à eux aussi de trouver une solution, voilà, tout seul. Mais j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ce podcast en disant, bah en fait, je ressens la même chose. Alors il y a eu beaucoup, j'ai fait le même parcours que toi et je ressens la même chose. Il y a eu aussi pas forcément en termes de parcours, mais je ressens la même chose. Je suis paumée un peu dans ce que je fais aujourd'hui. Je sens que je suis dans un métier où je passe mes journées devant un ordinateur, et j'aimerais bien construire quelque chose qui fait du sens, plus de sens pour moi, et pas d'avoir une stabilité financière. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là l'ont, mais en fait, ils se rendent compte que ils sont pas plus épanouis. Et du coup, ça les a beaucoup rassurés. Alors, je pense que je leur ai pas apporté de solution. Encore une fois, comme aujourd'hui, je te dis, j'ai pas de projet. Je vis pas de ma passion, mais
pas encore.
Mais en tout cas, j'ai rassuré beaucoup de gens en se disant, moi, j'ai gagné au meilleur pâtissier. Alors, je sais pas si c'est quelque chose de grandiose ou pas, mais en tout cas, je suis toujours aussi paumé que vous, quoi. Donc voilà, il y a pas de complexe à avoir. Et c'est pas grave, enfin c'est tout le monde, il y a beaucoup de gens qui passent aujourd'hui par cette zone de réflexion. Le confinement a encore plus facilité, je crois, cette réflexion, enfin en tout cas a apporté cette réflexion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés seuls, soit face à eux-mêmes. Quand tu vis seul, tu te retrouves seul dans ton appartement, t'as que ton taf, j'ai envie de te dire, t'as que donc là tu te poses forcément les bonnes questions de savoir est-ce que cette vie-là te correspond, est-ce que ton appartement te correspond, est-ce que les choses dans lesquelles tu vis te correspondent. Pareil quand tu es à deux finalement, ou quand t'as une vie de famille, tu te retrouves bloqué avec bloqué, c'est un grand terme, mais tu te retrouves avec les personnes avec lesquelles tu as décidé de vivre, et là tu fais face à ça, et forcément tu te poses les questions de dire, est-ce que j'ai choisi les bonnes personnes, le bon appartement, le bon mode de vie, tout simplement.
Dans les choses positives comme les choses qui nous convenaient plus, quoi.
Ouais. Et ces messages là du coup se sont démultipliés après le podcast, des gens qui m'ont dit que vraiment ils étaient vraiment dans une phase de grande réflexion, et que même si je leur avais pas apporté de piste, du moins je les ai décomplexés sur le message de ok, je suis paumée quoi, il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi ça m'a donné envie de passer ce cap d'arrêter ce que je fais aujourd'hui qui ne crée pas de sens pour moi, et puis de vraiment me lancer dans ce que j'ai envie de faire. Donc ça, tant mieux si j'ai donné aux gens l'envie de passer ce cap. Après, pour moi, c'est aussi encore une lourde responsabilité, parce que je me dis, si derrière ils sont déçus, J'ai pas envie d'être la personne qui est responsable de leur déception, mais je crois que de toute façon, il n'y a pas de déception négative dans le sens où au moins tu l'as fait et bon, bah, ça te correspond pas.
Pour moi, il n'y a pas de regret.
Voilà, ouais, t'as essayé, il n'y a pas de regret. Donc, moi, c'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé de quitter l'Accenture, c'est que j'entendais beaucoup de personnes autour de moi, justement, grâce à ce podcast et autres. Hein, j'ai aussi des collègues qui n'étaient pas forcément satisfaits par leur vie pro. Et en fait, dans ma tête, j'étais là, mais arrête de te plaindre. Si t'as envie de changer, change. Et je me dis, mais en fait, je les critique de ce point de vue-là, mais je suis exactement en train de faire la même chose. C'est-à-dire que je me plains quand même pas mal au quotidien du fait que je suis paumée, etc., que j'ose pas passer le cap. Mais en fait, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que, bah, du coup, so what, quoi. Enfin, il faut que j'arrive à faire un pas en avant. Et du coup, ça me permettra aussi de pouvoir leur dire, bah, si t'es pas content ou si t'es pas contente, bah, change.
Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est, en fait, on dit souvent, bah, sortir de sa zone de confort, mais finalement, est-ce qu'on est déjà confortable quand on en...
c'est... Ah oui, c'est clair. Ouais. Ah non, c'est sûr que je pense que quand on veut sortir de sa zone de confort, c'est qu'on est déjà pas très confortable. Ouais. Donc, sinon. Enfin, si on a trouvé l'apaisement et si on a trouvé l'épanouissement, on n'a pas envie de... Alors, enfin, si, tu peux vouloir te challenger tous les jours, mais j'ai envie de te dire, si tu as envie de te challenger tous les jours, c'est que c'est un confort pour toi de te challenger tous les jours. C'est que, voilà, tu as trouvé ton rythme, tu sais que ça te booste. Et donc, quelque part, bon, après, tout dépend de la définition de ce qu'on en a un confort, mais je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément parce que tu es confortable. Enfin, voilà, que... Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sentent très, très inconfortables aujourd'hui et qui font qu'ils ont envie de sortir de cette zone-là, justement.
Ouais. Et c'est quoi tes nouvelles peurs, du coup, maintenant ?
Les peurs, j'en ai plein. J'en ai plein, mais après, je crois qu'elles sont nécessaires, mais à la fois pour se lancer et pour avancer au quotidien, il ne faut pas avoir peur de la peur. Alors, je sais qu'elle est là, je suis obligée de faire avec. J'ai tous les jours... la peur que les choses ne marchent pas. Enfin, j'ai envie de te dire, j'ai peur de cette pression qui est mise au quotidien sur moi. Alors, j'ai décidé de faire une introspection par rapport à ça, mais de un peu moins me mettre la pression. Mais j'ai peur de pas être à la hauteur, de pas être à la hauteur de ce que, enfin, j'ai peur de pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi. Alors maintenant, comme je te disais, j'ai le sentiment que y a personne d'autre à part moi qui doit attendre des choses de moi-même. Mais quand même, je te disais, je déteste la déception dans le premier podcast, et c'est ça, j'ai peur d'être déçue. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Mais je sais ce que je ne veux pas faire, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Et alors, j'élimine les pistes au fur et à mesure, mais j'ai le sentiment qu'il me faudrait toute une vie pour tester tout, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai envie de me dire, je ne me ferme pas de porte et j'ai envie de tout tester, toutes les opportunités qui me sont offertes. Mais c'est pas évident parce qu'en fait, je me dis, je suis une éternelle insatisfaite, quoi. C'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai peur d'être déçue, encore une fois, par, de me dire, j'ai accepté plein de choses cette année, j'ai accepté plein de projets, j'ai fait plein de choses. Mais en fait, j'ai pas trouvé de choses vraiment potentiellement viables pour moi, dans lesquelles je peux m'épanouir. Et ça, c'est un peu ma grande crainte, quoi. On verra si j'arrive à trouver, vraiment, voilà, quelque chose dans lequel je m'épanouis, mais c'est ma grande peur, ouais.
Ouais c'est ma... Je vois bien, ça me parle.
C'est pas évident. Mais voilà, je fais avec en me disant que de toute façon, cette peur, elle est là et elle n'est pas incompatible avec ce que je vais vivre dans ma situation d'entrepreneuriat, etc. Mais au contraire, il faut faire avec et voilà. Faut pas avoir peur de la peur, mais sinon t'avances pas, quoi. Enfin, t'es obligé. Je crois que j'apprends rien en tout cas aux gens qui ont déjà une entreprise, c'est que tous les jours ils ont peur. Je pense, hein. c'est ça. Tu fais avec presque. Il y a des choses qui sont pas prévisibles. Enfin, ouais, avec le Covid, je pense qu'en plus ça parle encore plus de gens. Enfin, du jour au lendemain, tu peux perdre beaucoup. Et donc voilà, c'est comme ça, quoi. C'est un peu Donc, la peur, tu fais avec. Et tant pis, il ne faut pas que ça te... En fait, il ne faut pas que ça te paralyse, quoi. Ouais. Il faut que, au contraire, que ce soit un sujet qui te fasse avancer. Et voilà, si ça arrive, si ta grande peur arrive, je me dis, bah, si demain, si dans un an, en fait, je me rends compte que bon, bah, voilà, c'est pas, j'ai rien trouvé, bah, en fait, il faut que ce soit juste un coup de boost, quoi, que ce soit un coup de pied dans les fesses et que je me dise, bon, bah, c'est pas grave, soit tu continues de chercher, voilà, une voie où tu t'épanouiras en tant qu'auto-entrepreneuse, tant pis, ça peut durer toute une vie, hein, j'ai envie de te dire, tant pis, jusqu'à la retraite, soit tu te remets dans le salariat. Et je sais pas, moi je sais en gros j'ai quand même une base. Quand je te dis je sais ce que j'aime pas mais je sais pas ce que j'aime, j'ai quand même une base. Je sais que la nourriture pour moi c'est un sujet, la food, enfin c'est porteur pour moi, enfin c'est le truc pour lequel j'ai l'impression que je suis intarissable. Ça me motive au quotidien. Donc quoi qu'il arrive, enfin je sais pas, je me mettrai dans une autre entreprise, j'irai bosser, je sais pas, je me démènerai pour aller au Guide Michelin, je me démènerai pour aller dans d'autres entreprises, enfin une entreprise qui est autour de la food, voilà, une start-up, enfin bref, le tout c'est de trouver de sans cesse dans la recherche de projets, quoi qu'il arrive, même si ça marche pas.
Ouais, il faut essayer. Par rapport à l'entrepreneuriat et la peur, c'est l'épisode que j'ai diffusé la semaine dernière avec Marie Stoclet-Bardon qui a monté la meringuée. Je sais pas, tu vois. Les rois de la femme.
Ouais, c'est ça. Oui, j'ai regardé son parcours, c'est très intéressant. Ouais. Bon, elle a fait une école de commerce aussi et tout.
Ouais, elle a fait une grosse école de commerce et elle disait en fait, pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir faim. Évidemment que tu vas avoir peur, mais il faut que ça soit une peur avec laquelle tu es capable de vivre au quotidien.
Ouais, c'est ça.
Je trouve que c'est un beau conseil parce qu'en effet, tu as forcément peur, mais est-ce que tu as peur et tu dors pas de la nuit ou est-ce que tu as peur et ça te stimule?
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il faut, ouais. Je crois que oui, il y a différents types de peur. Et effectivement, si tu tombes dans un truc paralysant où justement tu dors pas de la nuit et où ça nuit à ton efficacité après au quotidien et où ça peut nuire à ta vie entrepreneuriale, vie perso, etc. C'est pas la bonne peur, mais je crois qu'il y a des peurs sous-jacentes et inconscientes que de toute façon, t'es obligé de cumuler pour voilà, c'est tant pis. Je crois qu'au bout d'un moment, tu fais avec et voilà.
C'est quoi tes plus grandes réjouissances depuis ces 3 derniers mois?
Mes plus grandes réjouissances. Alors, c'est d'avoir passé le cap de la démission à Accenture. Ça a été une grosse source d'angoisse. Alors, comme je disais, une grosse source d'angoisse inconsciente. Je crois que j'étais hyper fière. Enfin, pas fière, mais si, j'étais un peu fière quand même. Au moment où j'ai annoncé que ça y est, j'avais pris ma décision et que j'allais démissionner, quand j'ai fait, que ce soit avec mes collègues ou avec ma famille, c'est vrai que ça faisait des mois, comme je te disais, que je me plaignais, mais que je parlais des gens qui se plaignaient, etc. Et que moi, je faisais même pas la démarche moi-même de sauter le cap. Donc là, j'étais fière de leur dire, ça y est, je l'ai fait. Mais en fait, il s'est révélé que inconsciemment, ça a été une grosse source de stress dans le sens où, bah, justement, ça m'a provoqué des grosses insomnies. Et en fait, alors que je disais presque d'une manière enjouée que ça y est, je démissionnais, je me suis dit, mais en fait, inconsciemment, je flippe. Enfin, je flippe vraiment beaucoup parce que bon, c'était même pas mon cerveau, c'était mon corps qui me faisait comprendre qu'en fait, j'avais une peur et une angoisse quand même de mon appel avec mon boss, de mon appel avec mes RH, etc. Et en fait, une fois que ça a été fait, ben, je me suis rendu compte que je gardais une respiration depuis un moment bloquée et j'ai respiré d'un coup, quoi. Je me suis dit, ça y est, c'est fait. Et du coup, ça m'a enlevé un énorme poids. Et je te dis, tout s'est libéré là. La semaine dernière, je crois que, enfin, en 2 semaines, tout s'est débloqué. C'est-à-dire que j'ai vraiment quitté Accenture. J'ai terminé les examens du CAP. Et ça a été une énorme respiration. Ce week-end, j'ai respiré. Alors, j'ai beaucoup pleuré aussi parce que je me suis dit, ça y est, enfin, en fait, tout ce qui était un peu angoissant pour moi, c'est terminé. Alors, arrivent d'autres angoisses parce qu'il y a le, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai plein de petits projets en cours, hein. J'ai un second livre, j'ai plein de choses. Mais il y a quand même le bon, maintenant, t'es un petit peu. Alors, bon, ok, j'ai fait une rupture conventionnelle, mais t'es un petit peu sans filet quand même.
Ouais. Donc, ouais, et puis t'as plus le cadre avec le lundi commence.
J'ai plus le cadre. Exactement. C'est à toi de te fouetter tous les jours. Enfin, pas de te fouetter parce que c'est pas le but, mais c'est à toi de te motiver tous les jours pour te lever, assurer tes calls, assurer tes. Enfin voilà, faire toi-même, te vendre, voilà, pour mes activités de consulting, c'est à toi de faire tes contrats, c'est à toi de te vendre, c'est à toi de, voilà, d'aller voir les gens, d'aller faire ta com. C'est, pour le coup, ouais, t'as plus ton boss tous les jours qui te donne des directives, c'est toi quoi. Ouais. mais c'est chouette, mais c'est angoissant, mais c'est chouette.
Et comment il t'a accompagné du coup, ton copain, quand tu lui as dit bon bah ça y est, je suis prête, je m'en vais de chez Accenture.
Alors, il m'a pas accompagnée en me disant, il m'a pas pris la main en me disant oui, ok, vas-y, fais-le. Je crois qu'il m'a laissé faire ma démarche toute seule. Par contre, il a été là pour tous les à côté, donc la gestion des angoisses, le fait que voilà, c'était une période où j'étais pas forcément la plus joviale, la plus positive du monde. La plus optimiste du monde et en fait il a été là pour me dire en fait tout ira bien quoi, demain tu vas pas mourir, voilà, ça va aller quoi, donc la vie va suivre son cours un petit peu. Alors ok, on va être chamboulé, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on va plus faire et il va y avoir des nouvelles choses qui vont rentrer, des nouvelles activités qui vont rentrer dans notre vie, des nouveaux modes de travail. Voilà, moi j'avais repris en présentiel chez Accenture, donc là je me retrouve en mode voilà, je travaille tous les jours de chez moi, enfin alors pas tout le temps hein, mais et lui il est toujours aussi dans un mode télétravail, donc on travaille au quotidien ensemble, donc ça aussi il faut faire avec. On n'a pas un appartement parisien de 100 mètres carrés hein, autant te dire, donc voilà, c'est des nouveaux modes de vie qui se mettent en place et ça pour le coup pour gérer mes angoisses et pour m'aider dans ces nouveaux modes de vie, voilà, il m'a beaucoup aidée. Après, pour le quotidien, on a décidé vraiment de séparer, mon travail de notre relation, et c'est tant mieux parce que je crois qu'il est très doué, il est trader en matière première, enfin il travaille en trading de matière première, il est très doué pour ces choses-là, mais il n'est pas doué pour la pâtisserie quoi. Ouais. Et en fait à un moment il m'aidait beaucoup dans mes activités et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas bon pour nous deux parce que ok, il était plein de bonne volonté mais en fait c'était pas fait pour lui quoi, et en fait je lui ai rajouté une source de stress supplémentaire pour un travail pour lequel voilà, il n'était pas un expert du tout, et du coup, on a décidé de séparer ça. Donc, bien sûr, de temps en temps, j'ai besoin d'un coup de main pour la gestion de mes lives, de mes ateliers digitaux. Il sera là parce que c'est un gros geek et il saura très bien gérer ce genre de choses. Mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin et j'ai pas envie d'investir plus que ça parce que du coup, c'est très bien. Comme je disais encore une fois, il peut gérer mes angoisses parce qu'il n'est pas angoissé par cette partie-là, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que ça marche.
Ouais, je vois ce que tu dis. Ouais, au moins, il y a une vraie distinction.
Exactement. Et il est complémentaire. Voilà. Il est vraiment, pour le coup, complémentaire. Et c'est très bien de ne pas avoir mis tous les œufs dans le même panier non plus, parce que c'est vrai qu'on avait un gros projet après Meilleur Pâtissier de se lancer. On aurait adoré, je pense, avoir un resto tous les deux. Mais là, je crois qu'on n'en est pas dans ce stade-là de pouvoir gérer un établissement tous les deux. Parce qu'en fait, se lancer à deux, c'est très bien. Hein. Ça peut être très, très bien. Mais après, gérer sa vie de couple et une entreprise, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'il y a le fait que si tu te sépares, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as fait un projet commun, voilà, c'est comme des enfants, quoi. Du coup, ça a créé forcément une séparation. Ça crée un gros bouleversement dans une entreprise. Et soit tu as le... Tu continues en fait de travailler ensemble alors que t'es séparé, mais c'est pas forcément propice à une super ambiance. Ou soit t'es obligé de scinder une entreprise en deux. Enfin, c'est la mort d'une entreprise quoi. Je pense à partir de ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de me lancer toute seule. Alors toute seule, non, parce que je sais que sur le long terme je peux pas être toute seule. Je peux pas gérer tout toute seule. J'ai des compétences en pâtisserie, mais j'ai des compétences à côté En fait, je m'en suis rendu compte, je peux pas tout gérer. Donc j'ai besoin de personnes qui m'accompagnent, qui m'entourent. Donc j'ai un agent qui m'a contacté à la fin des vacances pour qu'on travaille ensemble. Donc pour l'instant, on a encore rien développé ensemble, mais j'espère qu'à l'avenir ça se fera, parce que je crois que quand tu travailles un petit peu sur les réseaux, un petit peu dans les partenariats, un petit peu dans les projets pas volatiles, j'ai envie de te dire, mais dans plein de projets comme ça, il faut avoir quelqu'un qui t'aide à côté pour le point de vue juridique.
Ouais. Te vendre, enfin, c'est ouais,
exactement.
C'est un métier.
Je me suis rendu compte au bout d'un an, je crois que j'ai fait un petit peu moins d'un an, mais en tout cas, je me suis rendu compte que quand tu te vends toi-même, que tu mets tous les deux dans le même panier, ça marche pas. Et t'es pas très crédible, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre un intermédiaire par rapport à ça. Et c'est très bien, et parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte que ça m'aide beaucoup, quoi. Que ça m'a débloqué beaucoup de portes. Alors, j'ai une autre personne qui m'accompagne, qui m'avait contactée pendant le confinement pour avoir un stage. Oui. Donc, c'est Amandine, elle est en école de commerce. Et en fait, elle cherchait un stage parce qu'elle avait perdu le sien en hôtellerie pendant le confinement. Et il se trouve qu'en fait, petit à petit, elle a commencé à me faire des choses, mais de manière très volontaire, bénévole, etc. Et en fait, ça marche hyper bien parce que c'est une personne qui est, elle est hyper douée. Et là, elle est en master, donc elle est à Bordeaux, mais en tout cas, on peut travailler à distance. Et en fait, elle est juste exceptionnelle. Et je me rends compte que, en fait, il faut que je sache m'entourer de ces personnes-là parce qu'elle m'aide et parce qu'elle me booste elle-même au quotidien, quoi. Elle me relance. Elle est là, mais en fait, t'as appelé ta maison d'édition, et ça me fait ça me touche beaucoup parce que elle n'était pas obligée de le faire et parce que je crois qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, il y a un facteur travail, il faut travailler pour réussir, mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Enfin, il y a un groupement de plein de choses. Il y a le travail, il y a le talent, il y a la chance aussi, hein. Comme je te disais, il y a les facteurs chance qui jouent un peu, il y a les rencontres. Ouais. Et j'ai été contactée par certaines personnes qui ont cru en moi, et je crois que ça aide beaucoup, parce que si aujourd'hui t'es toute seule, que tu te lances vraiment dans le grand bain tout seul, alors oui, j'ai pas envie de te dire que c'est impossible, mais quand même c'est très 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 compliqué, quoi. Franchement, il faut t'entourer des bonnes personnes, et sinon ça marche pas, quoi. Et je m'en souviens d'ailleurs, j'ai beaucoup changé, je pense, par rapport au dernier échange qu'on a eu ensemble, parce que par rapport à ces facteurs-là de travail, de chance, machin, parce que tu m'avais dit, je crois qu'une dernière, alors j'ai pas réécouté le podcast en entier, hein, mais une des dernières questions que tu m'avais posées, ça devait être, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent que tu as eu de la chance, qui te disent que tu as eu de la chance par rapport au meilleur pâtissier, etc. Et je m'en souviens que je pense que j'avais dû te répondre, parce que c'était mon mindset à l'époque, j'avais dû te répondre, ouais, je te dirais qu'ils ont qu'à faire le même parcours que moi et on verra ce qu'ils font, tu vois. Mais j'étais dans cette optique de, je l'ai mérité. Alors oui, il y a une partie où je l'ai mérité, mais en fait, je crois qu'aujourd'hui, je te dirais que ces gens-là ont raison. J'ai eu de la chance aussi. J'ai de la chance, voilà. C'est comme ça. Et il faut faire avec au quotidien. Donc oui, tu as des opportunités, tu as des rencontres qui font que tu aboutis à quelque chose ou pas d'ailleurs, ou ça te lance sur autre chose.
Je pense qu'un des vrais enjeux, c'est de savoir saisir la chance. Tu vois, c'est marrant que tu parles de ta stagiaire, c'est Nathalie Hedlinger que j'ai interviewé également en chemin. Et la première interview, c'était une semaine avant qu'elle accueille sa première stagiaire. Et le deuxième rendez-vous, c'était du coup 3 mois après, donc la stagiaire était arrivée et tout. Et quand elle parlait de sa stagiaire, en gros, elle expliquait, comme tu dis, que le fait que ça l'a boostée, qu'il y avait des jours où elle avait un peu moins envie, mais que du coup, elle devait toujours être au top pour elle, et puis qu'elle l'a relancée en effet sur plein de trucs. Et je suis sortie de cette interview, on était en Corse toutes les deux, parce que c'est une de mes amies, on était sur une terrasse au champ des cigales. Et je me disais, j'ai trop envie d'une stagiaire, moi aussi, parce que je pense que ça va m'aider, parce qu'il y a tellement de trucs que je veux faire, mais que je fais pas. Et quand je t'entends là, je me dis, ouais, en effet, ça va peut-être être...
Ça aide parce que ça apporte toujours, quoi qu'il arrive, une complémentarité. Et effectivement, encore une fois, tout dépend de la personne sur laquelle tu tombes, mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui sont hyper talentueux et qui sont hyper volontaires, et je crois que moi Amandine, elle est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je m'y attendais pas du tout d'avoir euh, son, CV et ses motivations dans un mail. Mais en fait, aujourd'hui, de toute façon, ce n'est pas ma stagiaire en tant que telle, on travaille ensemble, mais je n'ai pas la structure pour avoir une stagiaire. Ouais. Mais en fait, c'est presque, j'ai envie de te dire, c'est presque aussi mon agent, quoi. Parce mmh. Elle a été toute seule me chercher une maison d'édition, alors que moi, j'étais totalement dans un mood déprimé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je m'en souviens, on parlait du deuxième livre aussi.
Tu disais que tu allais le faire toute seule.
Exactement.
Ouais.
J'étais vraiment dans le projet du deuxième livre. Et en fait, ce qui s'est passé très vite, c'est que on en revient à la même chose. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Avec tout ce que j'ai à côté en parallèle, franchement, faire un livre en auto-édition, il faut y aller, quoi. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais chercher une maison d'édition. Sauf qu'en fait, donc j'ai contacté pas mal de maisons d'édition qui m'ont dit, non, mais en fait, Camille, t'arrives un peu tard, quoi.
Ambition, c'était de le sortir pour Noël au moment
des cadeaux. Exactement. Et en fait, moi, dans ma tête, j'avais le planning, encore une fois, avec l'expérience meilleur pâtissier, j'avais le planning du livre du meilleur pâtissier, où j'avais commencé à faire le livre au mois de juillet. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas du tout ça, que c'est pas parce que j'avais commencé à le faire au mois de juillet que la M6 édition n'avait pas prévu le livre en fait depuis le mois de février-mars, quoi. Forcément, c'est un livre qui revient tous les ans. Donc, et du coup, moi, quand j'ai contacté les maisons d'édition, ils m'ont dit non, mais en fait, nous, nos plannings pour fin d'année, ils sont déjà faits depuis le mois de février, quoi. J'étais ah oui, d'accord. Et puis j'ai aussi eu des petits, des petites déceptions qui font qu'on te dit, en fait, t'es la gagnante de l'année dernière, tu ne nous intéresses pas, quoi. Ah, ouf, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, mais bon, c'est bien. Il faut ces remises en question de dire, parce que j'ai beaucoup eu, c'est quoi qui fait la différence dans ton livre? Quel est ton projet derrière ton livre? Mais en fait, c'est juste mon livre, quoi. C'est proposer ma vision des choses, à ma communauté, aux gens qui me suivent. C'est proposer des recettes qu'ils aiment. Je sais qu'ils les aiment parce qu'ils les refont au quotidien. Et en fait, ça suffit pas. Et en fait, ce qui aurait pu faire la différence, c'était que j'étais une candidate du meilleur pâtissier. Et quand on me dit, mais en fait, t'es la gagnante de l'année dernière, je suis pas sûre que ça intéresse grand monde. Oh, ça te met un. Mais c'est bien, ça te met un bon coup de pied au cul aussi. Et en fait, Amandine m'a recontactée peu de temps après, pendant les vacances. Hein, et en fait, elle a bien vu que j'étais totalement... parce que je lui avais beaucoup parlé de ce livre aussi. Je pense qu'elle avait un petit peu envie d'y prendre part. Elle m'avait dit oui. D'ailleurs, elle m'avait aidée à faire des démarches pour l'auto-édition, de regarder les prix de l'imprimeur. Et très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas être possible. Et du coup, elle a pris la chose en main, mais directement. Et elle m'a dit non, mais c'est pas grave, je vais chercher... Je vais appeler. Donc, elle a appelé les maisons d'édition et elle a trouvé, quoi. Elle a trouvé quelqu'un qui était emballé, un directeur de maison d'édition. Et moi, je suis impressionnée parce qu'elle trouve l'énergie que moi, j'ai plus forcément après avoir été déçue justement par ce genre de truc, quoi. Et du coup, c'est génial. Voilà.
Et du coup, on peut te dire avec quelle maison t'as signé?
Pas encore.
C'est encore et donc, il va bien sortir à Noël?
Non. Non, parce que du coup c'est pareil en termes de planning, donc il sortira l'année prochaine. Mais c'est pas grave, parce que moi, le fait qu'on m'ait dit non, mais en fait, je suis pas sûre que ça nous intéresse quelqu'un du maire pâtissier des années précédentes, ça m'avait vraiment mis un stop, quoi. Donc je me suis dit, peu importe les délais, de toute façon, ça n'intéresse pas. Parce que ce discours, je l'ai entendu, tu l'entends une fois, tu dis, bon, je me laisse pas abattre, je suis quand même bague. Donc je me suis dit je continue, et en fait j'ai dû l'entendre 2-3 fois, et là je me suis dit ok, stop, c'est bon, j'ai plus envie de perdre d'énergie pour ça, et en fait du coup je me suis mise dans d'autres activités. Donc j'ai lancé mes ateliers digitaux, etc., et ça a très bien marché. Je me suis lancée dans d'autres choses, mais je me suis dit j'arrête de perdre de l'énergie pour quelque chose, pour un discours qui revient tout le temps. Et puis du coup c'est pas grave. Donc là c'est très bien. J'ai enfin trouvé la perle qui et en plus, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Mais je me dis.
Du coup Noël l'année prochaine ou
non, pas Noël, avant. Bon. Je pense que ce sera fin de premier trimestre 2019. C'est le 2021. Ouais. Je suis encore en 2019.
Là, je suis. Et surtout qu'en plus, on n'en avait pas parlé pendant notre premier rendez-vous, mais l'édition de ton premier bouquin, ça ne s'était pas passé vraiment de façon fluide. Parce que du coup, tu avais gagné un livre grâce au fait que tu aies gagné le meilleur pâtissier.
Oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le livre, ça a trop bien marché. Ça a très, 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 très bien marché. D'ailleurs, c'est ce qui a fait l'argument aujourd'hui de ma prochaine maison d'édition. c'est que, bon, ils ont regardé les chiffres, enfin, ils sont là quand même, les chiffres, et que le livre, il s'est très bien vendu. Et en fait, il y a eu du coup une rupture de stock qui a été quasiment, pas instantanée, j'ai envie de te dire, mais déjà au bout de 3 semaines, donc juste avant Noël, le livre était quasiment écoulé, enfin voilà, il n'y en avait plus quoi. Et du coup, c'était un peu dommage de se dire qu'à une semaine de Noël, j'ai eu plein de messages de frustration de gens qui ne trouvaient pas mon livre. Parce que moi, à ce moment-là, je jouais à le SAV, hein, c'est normal, les gens n'allaient pas contacter M6 Éditions. Enfin, déjà, ils ne savaient pas forcément que c'était M6 Éditions, mais ils ne se rendaient pas compte. Mais du coup, c'était moi qui gérais un peu les frustrations des gens. Et j'ai dit à M6, il faut qu'on active les choses et il faut qu'on relance une impression. Sauf qu'en fait, je m'en rends compte maintenant, c'est pas le cœur de métier d'M6, l'édition. Eux, voilà, ils font la production télévisuelle, ils font de la télé. M6 Édition, c'est une petite filière, je pense, chez M6. Et du coup, c'était pas non plus le challenge de l'année de réimprimer mon livre. Ils l'ont pas réimprimé pour Noël. Par contre, j'ai eu l'espoir après d'une réimpression en début d'année dernière, en début 2020 plutôt. Et en fait, parce qu'on m'a dit que potentiellement il allait être réimprimé, en fait, il n'a pas été réimprimé, quoi. Pour plusieurs raisons, je pense que M6 Édition est un peu averse aussi au risque d'avoir des stocks s'il y a une deuxième réimpression, donc voilà, qu'il y ait beaucoup de stocks et que les exemplaires ne soient pas écoulés complètement. Donc là, ils sont un peu, voilà, ils sont confortables parce que tout, pour le coup, c'est hyper rare de trouver un livre. Hein. Il est à vendre à 70€ sur Rakuten d'occasion, mais c'est vraiment hyper rare. J'ai créé un peu la pépite, le truc, le Graal que les gens veulent avoir. Et tant mieux, mais j'aurais quand même préféré qu'il n'y ait pas cette frustration et que je sois toujours peut-être sur les étals des librairies parce que ça aurait été chouette pour moi, parce que ça aurait été aussi une continuité de la visibilité, ouais, que là j'ai plus parce que mon livre il se trouve plus nulle part, quoi. Donc c'est dommage, mais voilà, je passe à autre chose, c'est pas grave,
ouais, je vais faire le deuxième sera une meilleure aventure.
Exactement. Déjà j'avais adoré la création du livre, ouais, de la première. C'est dommage que ça se soit terminé dans des conditions pareilles, que il y ait la déception de pas de deuxième réimpression, mais c'est pas grave. Je continue sur la bonne expérience du premier, en tout cas en termes de création, et je suis sûre que ça se passera très bien pour le deuxième.
C'est quoi du coup tes prochains défis? Bon, j'ai un peu une idée, mais je te propose.
Alors, mes prochains défis, c'est en termes de projets, de petits projets, entre le livre, le consulting que je fais pour les restaurants à Paris et à l'étranger, je suis bookée jusqu'à la fin d'année. Donc, déjà, c'est d'aller jusqu'au bout des choses jusqu'à la fin d'année. Et puis, de me dire, Camille, t'as trouvé peut-être une activité dans laquelle tu vas t'épanouir. Même si, j'ai pas d'expectative là-dessus, j'ai pas envie que ça m'arrive tout de suite, là, maintenant, c'est pas très grave. De toute façon, je me laisse encore de longs mois devant moi pour trouver un peu mon chemin et creuser un peu mon trou. Parce que, même si j'ai un petit nom aujourd'hui grâce à l'émission, j'ai pas encore tout à fait mes preuves dans toutes ces activités-là, dans toutes ces différentes activités. Alors le livre, oui, je sais que ce sera à peu près le même exercice et tout, mais par exemple en consulting pour la création de cartes ou pour la formation des équipes, j'ai pas encore fait mon nom et j'aimerais bien que ça marche. Alors ça marche plus du bouche à oreille, hein, je pense. Donc il faut que je développe, que je fasse beaucoup de, que je creuse un peu ma, que je roule ma bosse avec pas mal de restos et on verra si ça marche ou avec pas mal de boutiques. Et si ça marche, tant mieux, parce que je pense qu'aujourd'hui je m'éclate pas mal dans cette activité. Donc si je peux en faire quelque chose de viable, ce serait vraiment génial. C'est vraiment, j'ai pas envie de te dire qu'il y a un truc dans lequel je vais arriver à la fin de l'année et je vais me dire, ouais, ça tu l'as fait Camille, t'es hyper fière de toi, parce que je crois qu'aujourd'hui j'ai encore le sentiment de devoir faire tous les jours mes preuves, c'est vraiment de terminer cette année en me disant, au final t'es... Pas de regret par rapport à Accenture, pas de regret par rapport à tout ce que tu fais. Au final, c'est un gros kiff. J'ai envie, ouais, de me dire ça. Même si là, déjà, je suis un peu plus apaisée, je vis avec mes angoisses, mais je me dis qu'à la fin de l'année, si j'arrive à être satisfaite de ce que j'ai fait en 2020 avec les conditions extrêmes dans lesquelles je les ai faites, Covid, CAP extrême, etc. Je me dis que ce sera déjà très bien.
Bah, c'est clair. Est-ce que tu te rappelles du conseil que tu avais donné la dernière fois?
C'était de ne pas avoir peur, non?
Ouais, ne pas avoir peur de ce que... Ne pas avoir peur de sauter dans le vide de l'inconnu. Si demain, je décide de quitter Accenture ou la pâtisserie, je ne vais pas mourir.
Bah, tu vois, c'est en plus... Enfin, au final, je t'ai ressorti ce discours-là quand même un petit peu. Et c'est ce que je me dis au quotidien. C'est que bon, demain, quoi qu'il arrive, voilà, je... C'est quand même un défi au quotidien pour moi. Je n'ai pas envie de dire que tout est rose. Pas du tout. Hein, et je n'ai pas envie de porter ce message-là. C'est quand même, je suis quand même dans une bonne posture où je me dis j'ai bien fait les choses parce que de quitter Accenture c'était vraiment, enfin voilà, c'était vraiment nécessaire pour moi. Je pouvais plus vivre le cul entre deux chaises, j'ai envie de te dire, c'était vraiment trop compliqué. Mais voilà, c'est un conseil qui est toujours valable aujourd'hui, en sachant que voilà, avec tout ce qu'on vient de se dire, c'est il faut pas avoir peur, mais à la fois, comme je te dis, c'est nécessaire les peurs. Enfin, tu les auras, mais c'est il faut pas que ça te paralyse. Il faut pas que cette peur te paralyse. Et voilà, si de toute façon, toute personne qui se lance, qui est en reconversion, qui rencontrera des angoisses, des peurs, mais il faut vivre avec. Et voilà, c'est de se dire que de toute façon, ça se construit un petit peu petit à petit, quoi. Au quotidien, donc tu fais face à tes peurs, mais aussi ça te pousse. Ouais. C'est vraiment stimulant, donc c'est chouette. Tu auras des peurs, mais il ne faut pas avoir peur de la peur.
C'est bon.
J'ai rajouté un peur. Je crois qu'à chaque podcast qu'on va avoir ensemble, il ne faut pas avoir peur de la peur. Je ne sais pas si ça résonnera dans beaucoup de personnes, mais...
Ça va, ouais, bah, c'est pas que toutes les personnes qui changent de vie se posent forcément des questions. Après, il faut, en effet, hein, tout le monde le dit, il faut un peu d'inconscience, mais pas que, quoi.
Oui. Oui, oui. Non, mais il faut un peu d'inconscience, un petit peu de folie aussi, je crois. Mais parce que si t'es trop raisonnable, je pense que tu te lances pas, quoi. Et je crois que j'ai été trop raisonnable pendant des années, ce qui m'a fait un peu me dire, ouais, stop. Stop, il faut que tu vives un peu le truc au jour le jour. Et voilà, t'auras des déceptions, bah tant pis, ça c'est comme ça et c'est pas grave, c'est pas grave.
C'est la vie.
C'est la vie.
À qui t'as envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte?
Alors, à qui j'ai envie de dire merci et pourquoi? La dernière fois, c'était à ma maman, je crois que j'avais dit merci.
T'as dit à ta maman et t'avais
ma
dit...
famille,
mon copain. T'avais dit ta famille et ton copain.
C'était très bateau, hein. Non, enfin, c'était vrai en même temps. Mais je sais pas, c'est compliqué.
T'as le droit de dire les mêmes.
Bah, tu vois, il y a tellement de gens qui m'entourent aujourd'hui. Comme je te dis, je suis pas au combat toute seule, quoi. Il y a beaucoup de gens qui font partie de mon quotidien, des gens qui ont rejoint l'aventure un peu en cours de route. Tu vois, je te dis à Amandine qui a rejoint l'aventure en cours de route. Mon potentiel éditeur, tu vois, il y a plein de gens qui rejoignent l'aventure après coup. Ça fait presque un an maintenant que l'émission de Lumière Pâtissier est diffusée. Donc forcément, je crois que c'est un peu le reflet de ce que je vivais. C'est que au premier podcast, j'ai remercié ma famille parce qu'en fait, j'étais quand même relativement solo dans cette aventure. C'est-à-dire qu'il y avait moi et il y avait mon entourage et voilà. Et aujourd'hui, je commence à faire de confiance en de plus en plus de gens. Parce que je sais que je peux pas le faire toute seule et que voilà, il faut qu'il y ait des gens qui rejoignent l'aventure, qui sont très compétents aussi pour faire les choses en complémentarité avec moi. Et du coup, bah, toutes ces personnes qui rejoignent l'aventure, que ce soit futur éditeur, que ce soit Amandine, que ce soit mon agent, que ce soit tous les gens avec qui je crée du lien et des partenariats qui font sens pour moi, comme les chefs, comme Nicolas Pacello avec qui j'ai fait un atelier, voilà, c'est des gens que j'ai envie d'en remercier parce que c'est les gens qui me font confiance tout simplement, donc, et que c'est compliqué aujourd'hui de faire confiance, même moi je m'en rends compte parce que c'est, voilà, c'est un truc mutuel, c'est un échange mutuel et en fait C'est un peu de l'inconscience de faire confiance à quelqu'un, tu vois, parce qu'à chaque fois, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et je crois que toutes ces personnes qui me font confiance, j'ai envie de les remercier, ouais. J'ai envie de leur dire que c'est un peu grâce à eux que petit à petit, je me construis, que petit à petit, je grandis en pâtisserie, mais aussi dans ma vie d'entrepreneuriat. Donc, c'est génial.
Super. Un énorme merci, Camille. Et puis, du coup, on
merci
se retrouve,
à toi.
Dans 3 mois, si vous avez des questions pour poser à Camille, n'hésitez pas, soit sur Insta, soit sur pourquoipasmoi.co.
Oui, et puis, vous pouvez même me poser des questions, je les transmettrai à Charlotte, comme ça me fera une petite réflexion moi aussi en amont, mais je dirai les réponses que le jour J.
J'ai reçu d'autres questions, mais qui sont plus des questions vraiment 100% pâtisserie. Donc, je te les enverrai comme ça.
Ah oui.
On fera un petit bonus spécial pâtissier.
Ok, ça marche. Je te répondrai.
Ça content. Merci beaucoup,
bien.
Camille.
Et puis,
je te souhaite évidemment le meilleur pour ces 3 prochains mois.
Ouais, merci. Et puis, à très vite.
À très vite.
J'espère que ce deuxième rendez-vous vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et les 5 étoiles pour m'en mettre plein les yeux. La semaine prochaine, nous allons parler d'île flottante, mais d'un tout autre genre, car j'aurai le plaisir de vous présenter une glaciologue. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?